Saint Jean de la Croix dit dans la vie ferme d'amour qu'il y a trois choses qui empêchent la mémoire d'être liquéfiée, embrasée, épuisée d'amour. Et dans les vies flammes de la ressemblance du face de la substance de Dieu, c'est les prêtres qui ne parlent pas de leur raison parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce que c'est. Mais c'est aussi le démon. Le démon qui vient, qui sait faire, qui sait embraser de ses traits de feu à lui, attirer, transpercer et obombrer les âmes de manière la plus subtile qui soit. Et enfin, c'est l'âme elle-même qui ne veut pas aller jusqu'à l'épuisement d'elle-même pour pénétrer, se laisser absorber par la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Le pape François, ces jours-ci, là, il disait, c'est bien d'expliquer le bien, c'est bien de faire le bien, c'est bien de s'introduire dans le bien, c'est bien d'avancer pas à pas dans le bien. Mais il faut aussi entrer dans le combat spirituel. Le bien, Dieu, tout ce que vous voulez, mais si on ne rentre pas dans le combat spirituel, si on ne voit pas que c'est Satan, que c'est le démon, et les personnes, si on ne lutte pas contre le péché et contre le démon, et contre Satan, et la moitié de ce que je voudrais dire, c'est d'expliquer Satan et le démon. La lutte spirituelle existe. Et on ne fait rien. Si on ne s'engage pas dans la lutte spirituelle contre le démon, contre soi-même, contre les murs qu'on dresse pour se protéger, puis en fait c'est sur ces murs qui vont nous enfermer. Et on a donc le récit, donc chapitre 5 qui continue et qui... Il faudrait y rester des heures sur ces versets d'aujourd'hui encore une fois. Mais... Et qui concerne leur raison, il faut bien le dire. Le témoignage que Jésus est Dieu, c'est dans leur raison qu'on le trouve. Parce que le Père témoigne que les touches délicates et les enflammements, les embrasements sont les embrasements de la substance du Fils. Dans la plaie ardente et unique de son univers hypostatique, déchiré, c'est là où le témoignage est plus grand que celui, bien sûr, de tous les grands saints. Le soleil n'a plus rien à voir avec les étoiles. Le témoignage de Jean-Baptiste est grand, mais il est pour conduire jusqu'au Noël du monde nouveau, lequel nous engloutit, se tourne sur lui-même pour nous introduire dans le lieu où on ne peut plus oublier Dieu, parce qu'il est là, il est agissant. Le peuple d'Israël, dans le livre qu'on vient de lire, on voit Moïse, qui était dans l'oraison, embrasé par le feu, la gloire d'Élohim, sur la montagne, dans le Verbe de Dieu. Ça dure 40 jours, et même son corps est marqué par le feu et les flammes. Et puis, au milieu de tout ça, Dieu lui dit, sors de l'oraison, sors de cette union, sors de cette... Et regarde le peuple. Tu es le Père de Dieu, mais tu es aussi le Père du peuple. Et il y a un combat spirituel contre le démon. Et il sort, et il dit, effectivement, malgré tout ce qu'ils ont vécu, tous les jours des miracles inouïs, quoi, même impensables, ce peuple d'Israël tout de même. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, les fleuves qui faisaient une muraille à droite et à gauche, les eaux qui se fendaient, les rochers pour donner de l'eau vive, de la viande à satiété, au milieu du désert. Et des miracles, et des miracles, des miracles, des miracles, des miracles, de lumière, des miracles, des miracles. La vision du Messie glorieuse, comme les. Comme on veut. Élie, Moïse dans le buisson ardent, Pierre, Jacques et Jean, la transfiguration. Tous les gens, ils voyaient la lumière de la gloire du Messie. Dans la réunion de la tente, tous sortaient. Et ils ont vu cette gloire du Messie passer devant eux, les obombrer, les rendre invisibles aux ennemis, tracer une route au milieu de la mer énorme. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dieu les portait, Dieu les portait. Pour que leur pied ne heurte aucune pierre, même dans le désert. C'était miracle prodigieux, prodigieux. Continuellement, il suffit que simplement Moïse se trouve là, sur le mont de Sinaï, dans l'horizon plein de gloire, etc. Pendant 40 jours. Ça suffit, 40 jours, ils ont oublié. Tu voyais, après on va dire que c'est pas la mémoire, que ça sert à rien. La puissance de la mémoire n'existe pas. Ils ont oublié Dieu. Dieu lui dit, ils ont oublié.
Pardon.
Ils ont oublié, comment est-ce qu'ils ont oublié? Eh ben oui, ils ont oublié, ils ont pris tout ce qu'ils avaient, toute leur parure, de grâce, de splendeur, de beauté, de lumière, de ressemblance, hop, ils l'ont donné, et ils ont fabriqué, au lieu de l'image ressemblance de Dieu dans la gloire, ils ont fabriqué un de leurs ruminants. Ils ont fabriqué un ruminant, une espèce de veau. Ils ont dit, voilà, ça c'est Dieu. Et non seulement ça, mais en plus, ils lui ont offert des sacrifices. Alors, quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que c'est cette... Il y a un dieu des païens, que les païens, déjà chez les... C'est toutes les peuplades qui ne sont pas chrétiennes, c'est toutes les peuplades qui ne sont pas messianiques, chrétiennes. On dresse des satans et on lui offre des sacrifices d'enfants. Même... Si tu traverses l'océan, quand on a trouvé dans les Amériques, on a regardé, on a vu, ben c'est ça qu'ils faisaient. Certains jours, 5000 enfants sacrifiés à des figures qui ressemblaient à des démons. Dans l'Ancien Testament, on voit que les peuplades, oui, ben, prenaient les enfants, les sacrifiaient et les offraient aux démons. Crucifixion de l'innocence, le démon l'a toujours réclamé en quantité considérable. Il en a besoin pour dévorer, pour pouvoir pénétrer la mémoire de ceux qui sont élus. On est dans un combat spirituel. Le nom qu'on donne dans l'Ancien Testament, c'est Moloch. Moloch, c'est celui à qui on sacrifie les enfants. Et voilà que le peuple d'Israël, en quelques jours, est passé de l'union transformante au sacrifice, à Moloch. Oh, encore aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les entrailles de la pieuvre noire, où tous les grands représentants d'Israël pensent pouvoir diriger le peuple humain tout entier en dehors de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le font, on le sait. Ils sacrifient des enfants et ils les dévorent dans des rites initiatiques à l'intérieur des fraternels. Ils les dévorent. On a des textes de personnes très 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 connues d'aujourd'hui qui le disent explicitement. Non, je ne pourrais pas venir ce soir dans un mail hein, parce que je dois sacrifier un Moloch. Il y a vraiment, le pape il a raison, il y a un combat spirituel contre. Et si vous faites mémoire donc, de la Christie jusqu'à aller à l'Union transformante, où du coup il n'y a plus aucun oubli, les cavernes de l'oubli sont envahies par la ressemblance et l'embrasement de Dieu, alors à ce moment-là, voilà, il y a, le combat est spirituel, il est là. Il y a un combat contre le démon. Et aujourd'hui, ça nous est rappelé, hein, dans les. Il faut faire attention de ne pas suivre les mauvais guides. Faire attention de ne pas suivre. Faire attention de bien repérer les ruses, la méchanceté. La perfidie, c'est exactement s'infiltrer dans le petit cheveu du Moloch. Il faut se méfier aussi de nous-mêmes. Alors c'est beau parce que, donc du coup, on voit Moïse. Il dit, voilà, moi je vais... C'est pas possible si le peuple d'Israël, c'est ça. Non seulement je vais le donner... toutes ces grâces à un autre peuple qui lui fera donner son fruit, mais ce peuple-là, je vais l'exterminer. Le peuple de l'étoile. Et je ferai le peuple du soleil. Je multiplierai. Dans les Jérusalem éternelles. Alors Moïse s'est dressé. Comme dit le psaume 105, il est monté sur la brèche devant la face de Dieu. Il a dit non. Enfin, Jésus le dit aux Juifs dans le temple. C'est Moïse qui parle de moi, là. C'est de moi qu'il parle. Il passe devant la brèche. Et mon témoignage, c'est ça, le Père et moi, nous sommes venus pour vous arracher à Moloch et à l'extermination devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu. Et il y a dans l'oraison de Moïse, il y a dans... La prière du buisson ardent, l'Immaculée Conception, la présence du face-à-face du Fils de l'homme qui surgit dans la brèche, dans la plaie énorme, une plaie qui dépasse les dimensions de l'univers et même des débordements de l'anastase, de l'embrasement divin, qui est plus que le Sinaï, bien sûr. Il y a un combat hein, avec le démon. On va être extrêmement attentif. Le carême est là pour enlever tous les prétextes au démon de renverser la situation quelques instants. Donc on n'est pas dans le mariage spirituel, on n'est pas assuré. carême, il est là pour nous mettre dans la Pâque du Seigneur. Et que le chemin soit libre pour qu'on puisse surgir dans la braise, dans la blessure du cœur de Jésus, devant la face de Dieu, ou dans la présence vivante, brûlante, féconde, efficace du Père. Notre oui originel s'efface, s'épuise, si je puis dire, se liquéfie sous l'effet du feu, pour être absorbé, pénétré dans la ressemblance, c'est-à-dire dans le face-à-face, dans l'ombre de la lumière de gloire. C'est ça qui est marqué dans la première lecture. Et parce que l'Église de la fin, elle sauve Israël, elle sauve, le soleil sauve l'étoile. La divine et éternelle volonté de Dieu épuise toutes nos ressources dans l'union parfaite du mariage spirituel. Comme dans le Christ, comme dans le buisson ardent d'Immaculée, comme dans le Père, le Papa, comme dans la Sainte Famille continuellement pendant 36 ans. Et pendant ces 36 heures de la croix glorieuse, vers lequel Saint-Esprit nous enfonce, petit à petit. Et nous ne voulons pas être enfoncés, nous voulons dévaler, comme la Jérusalem glorieuse, et la Jérusalem, nous dévaler dans la Jérusalem nouvelle, et de la Jérusalem glorieuse, dévaler jusqu'à nous, jusqu'à l'instant de l'ouverture des temps, des trompettes, chapitre 8, 9 et 10 de l'Apocalypse. Et qu'il y ait donc un double témoignage. Chapitre 11 de l'Apocalypse, les doubles témoins, les deux témoins, ils sont deux à témoigner. Le Père témoigne, et moi aussi témoigne dans mon témoignage, et moi je témoigne que le Père vous aime. Le Pape est toujours là et pour nous dire, nous rappeler. Voilà, je ne. J'ai envie de lire avec vous, c'est dans les lectures d'aujourd'hui, le pape saint Léon le Grand, qui rappelle ça à sa manière, c'est vraiment dans la passion et dans la croix glorieuse, dans le fond de la passion de notre Seigneur qu'il faut pénétrer. Celui qui vénère le Fils, vénère le Père. Celui qui honore, fait honneur, louange, gloire, parce qu'il a pénétré, il le voit, et du coup il fait louange, honneur, louange, gloire à Dieu le Fils dans sa passion, mais il fait honneur, louange, gloire à Dieu le Père, et dans les deux, il saisit dans ce regard. Et on doit si bien regarder Jésus-Christ par les yeux du fond, de l'âme et du cœur, qu'il puisse en arriver à reconnaître sa propre chair dans sa propre chair. C'est en honorant la passion du Seigneur que notre chair, on la voit exactement semblable à la sienne identifiée. Alors que la nature terrestre se met à trembler au supplice de son Rédempteur, que toute notre nature humaine tremble comme le tremblement de terre qui a secoué la terre tout entière en ce jour, que les pierres, c'est-à-dire les esprits des incroyants, à l'opération des croyants, se fendent, que les hommes de toute la terre écrasés par le tombeau de la condition mortelle surgissent du tombeau en fracassant la masse qui les tenait esclaves, prisonniers, captifs, et qu'ils puissent surgir eux aussi avec nous dans la cité sainte, la Jérusalem, la ville, les églises de Dieu, comme des présages de la résurrection future de cette terre. Et ce qui doit un jour se produire dans les corps, cela se réalise dans les cœurs, jusqu'au fond du corps, dès cette terre. Aucun malade ne se voit refuser la victoire de la croix. Aucune personne frappée par le mal ne se voit refuser la victoire de la croix. Et il n'y a personne qui ne trouve un secours dans la prière identifiée au Christ. Si elle a profité beaucoup de ses bourreaux, combien davantage aidera-t-elle ceux qui se tournent vers lui? Très joli. Il a sauvé Israël. Et c'est son bourreau qui s'est tourné entièrement vers Moloch. Combien davantage elle aidera ceux qui regardent sa passion et voient leur chair identifiée absolument à la sienne. Leur ignorance est enlevée, l'obstacle est diminué. Le sang sacré du Christ éteint le glaive de feu qui interdisait d'entrer même dans les sources de la vie. Devant la véritable lumière, l'obscurité de la nuit ancienne a totalement disparu. Le peuple chrétien est invité à entrer de cette manière dans les richesses du paradis, et l'accès à la patrie perdue de la terre promise glorifiée s'offre à tous ceux qui ont reçu le sacrement de la vie éternelle, pourvu que personne ne se fasse fermer ce chemin qui a pu s'ouvrir au pire des malfaiteurs lorsqu'il en a exprimé par les lèvres le désir. La contemplation s'enfonçait éperdument. Je remercie toujours le pape Saint-Léon le Grand, parce que... et le pape tout court, qui sont simplement, comme Moïse représente, celui qui monte sur la brèche, au temps de Moloch d'aujourd'hui, pour être tous les enfants, par myriades et par myriades et par myriades et par myriades, forment la vie divine de Jésus, agneau immolé dans leur âme, pour s'avancer sur la brèche, comme le roi, comme le fruit de Marie, médiatrice de toute grâce dans la terre, qui doit entrouvrir toutes ses portes dans le temps qui s'ouvre, en tous ceux qu'il est en train de marquer du sceau de l'Apocalypse, et dans laquelle cette terre, et dès maintenant, reçoivent le corps spirituel. Venant goutte à goutte, goutte à goutte, goutte à goutte, goutte à goutte, délicieusement, de la fécondité suprême, de la Sainte Famille en nous, pour que nous soyons dans le corps spirituel, les récepteurs du Saint-Esprit. Ces quatre en un montent dans la brèche, sur la brèche, devant la face de Dieu, pour qu'il n'y ait pas de châtiment. Pour la conversion, pour la mutation, pour la transformation, pour l'union transformante, pour le mariage spirituel donné en prémisse dans une pentecôte de feu, d'huile vivifiante, de serre et de lumière. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans ce chapelet angélique, hein, on dit ça. On dit combien de fois, je sais pas, une cinquantaine de fois. Nous préparons avec Marie, et Marie supplie avec nous et prépare la venue du Fils de l'homme. Venant sur les nuées du ciel, Elle le prépare avec tous les enfants. Après tous les enfants, brûlés par l'amour de l'esprit de piété, l'amour brûlant de Jésus pour son Père. Et le roi, le fruit de la terre et du travail des hommes, de la fin, qui a la même face que celui de Johannique, glorifié, marqué du sceau, secret de l'Apocalypse. Qui est royal, et ceux qui portent dans le corps et leur chair, avec elle, grâce à elle et en elle, le corps spirituel qui doit recevoir les flammes du Saint-Esprit. Ils sont royaux. Avec ses pieux enfants marqués du sceau royal et du Saint-Esprit. Admirable époux. Tout ça, tout cela s'écrivent, se disent avec Moïse, mais ils se vivent dans le mariage spirituel. Ils en faisant l'expérience en nous circoncisant et en disant laisse Dieu faire cela dans les flammes du divin amour. Un combat spirituel. Il y a une lutte contre le démon. Derrière nous, c'est Moloch. Devant nous, le monde nouveau. Voilà les deux témoins de l'Apocalypse. L'heure est arrivée pour les trompettes de sonner. Les sept tonnerres, de manière foudroyante, toute puissante. Le tonnerre, c'est la toute puissance. C'est avec les éclairs, c'est foudroyant, c'est fulgurant, c'est... Ces quelques instants qui nous engloutissent immédiatement dans le mariage spirituel sont notre plus grande manière de te glorifier Dieu. L'appel est renouvelé. Ne résistons pas, continuez à lire quelques petits passages de Vive Flamme d'amour, hein, pour nous aider, parce que ça, c'est pas pour nous y aider d'ailleurs, c'est parce que si on ne l'entend pas, ça ne pénètre pas par la foi. Si la prédication ne frappe pas nos oreilles par la foi, tout ce qu'elle annonce ne peut pas se réaliser en nous par la vie éternelle. Alors, pour ça, c'est important. D'écouter le pape, d'écouter le docteur, l'unique docteur de l'Église sur la vie transformante de la prière. C'est important de le faire. Enfin, je crois que c'est important. Enfin, faisons-le. Allez. Allons-y. Montons sur la brèche avec tous les enfants. Et la dernière royauté. De l'unité substantielle de Dieu dans notre chair, identifiée à la chair du Christ, dans le corps spirituel, où le sceau de l'Apocalypse s'ouvre en nous. Ah! Ah! Au côté, au plaie, vraiment totalement délicieuse. C'est une main douce. Un attouchement si délicat. La main. L'attouchement délicat. C'est le témoignage que le Père fait dans Dieu le Fils. Dans le mariage spirituel. Oh main. Elle répond là, surabondamment, tout le don qu'elle fait en se donnant elle-même en moi. Oh, trouve d'autant plus agréable à mon âme, parce que dans le mariage spirituel, elle est touchée par vous. Simple toucher. Que ce serait formidable si vous la frappiez violemment. Tentez tous le simple petit toucher délicat. Car vous précipiteriez dans le néant tout l'univers. Coup de lance. Puisque la terre tremble à votre seul regard sur nous. Toutes les multitudes, toutes les nations tremblent effrayées. Les montagnes s'abaissent, s'anéantissent, car votre présence s'y manifeste. Oh, ma main agréable, et si tous vous avez frappé si durement le sein, que l'Écriture appelle Job, que à peine vous touchez si délicatement mon âme, là, ma vie disparaît, comme si vous me frappiez à mort, vous ôtez la vie. Et vous la rendez aussitôt. Et personne ne peut éviter vos touches. Mais vous, ô vie divine, vous ne faites jamais mourir que pour faire vivre de la vie éternelle. Vous ne faites jamais mourir que pour faire vivre de votre propre vie. Vous ne blessez jamais que pour délicatesse sans limite et sans fin. Vous me blessez de blessure en blessure jusqu'à la plaie parfaite afin de faire ma guérison et dans moi la guérison de toute la terre. Vous avez détruit en moi ce qui me privait de la vie de Dieu. Et ces blessures-là et ces morts que vous avez produit en moi, chaque touche si délicate, pour mon bonheur et ma libération, pour que je ne puisse plus être animé que par la vie intérieure de Dieu, qui est vous-même, tous ces dons, mon Dieu, sont des éclatements de votre miséricorde, de votre liberté et d'amour. Et vous m'accordez ces grâces de vie divine, par le divin attouchement de votre Fils, splendeur de votre gloire, et impression de votre substance, de la substance de l'âme qui est la mémoire. C'est par lui que vous-même, mon Père, m'avez touché là. C'est par lui que vous conduisez les choses dans le principe et le commencement. Les conduisant par le fond jusqu'à la fin. Avec une force et une douceur égales en suavité. Ô Verbe éternel, que le toucher que vous y faites est immaculé. Que ce toucher se réalise dans une pureté parfaite, qu'elle est subtile, subtile, la substance de mon âme, de ma mémoire, à cause de la pureté et de la sublimité de votre substance. Oh, quelle divine douceur, en fait, savourez-la, en liquéfaction, épuisement, on n'en trouve pas de semblable, nulle part ailleurs dans la création. Ni dans l'univers, ni dans tous les univers, et autrefois, vous l'avez fait éprouver un peu au prophète Élie par le souffle d'un petit vent derrière extrêmement agréable, si délicat qu'il était à peine perceptible, et vous le faites en moi étant aussi puissant et aussi redoutable que vous l'êtes, vous communiquez avec l'âme avec une douceur impossible à décrire, et une délicatesse sans limite. Pour que recevant ces traitements si doux, l'âme puisse les publier, les faire entendre par toute la terre, en donner connaissance au monde entier. Cette touche délicate, cette suavité du côté, cette plaie de délice, embrassée, ont le goût de la vie éternelle, un attouchement du paradis qui nous consomme et le consume en même temps. Et cela n'est pas incroyable puisque Dieu peut se donner en substance, dans la substance de l'âme, comme il s'est donné au sein sur la terre, dans cette vie. Et ce qui explique qu'il est impossible de la comprendre, l'exprimer en des termes, quelle qu'il soit cette délectation inconcevable, parce qu'elle ne peut pas se concevoir. Et elle naît de cette divine communication. Et je ne voudrais pas en parler par peur qu'on ne croit que ce n'est pas quelque chose de plus grand que tout ce qu'on en dit. Les paroles mêmes me manquent pour faire la lumière sur ces choses si simples, si sublimes en même temps. Et si irrésistibles telles que les saints l'expérimentent dans le mariage. Le Saint les sent, lui, il en jouit. Il est obligé de les cacher dans le silence, ne pouvant les expliquer à personne, ni même à lui-même. Il voit bien que ses faveurs sont semblables à cette pierre dont Saint Jean parle dans l'Apocalypse. Je donnerai à celui qui a la victoire une pierre immaculée où sera écrit son nom, un nom nouveau que personne ne sait, que celui qui le reçoit pour l'avoir aperçu. La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'il savoure dans ses flammes, ses saveurs, cette plaie, cette touche d'une délicatesse sans limite, la substance de Dieu. Il a goûté par avance de la terre, et qui est la nôtre, et dans ce temps, la vie éternelle. Et là, l'ayant goûté, il est consommé, dévoré, consumé par les flammes. Il participe à la réalité divine elle-même en éprouvant les douceurs, en les possédant par une infusion surnaturelle et au cœur même des sources de tous les attributs divins, de la sagesse, de la force, de l'amour de Dieu, de la beauté substantielle de Dieu, de la grâce substantielle de Dieu, de la bonté substantielle de Dieu et tous les autres biens célestes de Dieu qui émanent là de lui et qu'il en éprouve, puisque Dieu est lui seul, toutes ces choses à la fois, dès lors qu'il communique à l'âme dans ce sacrement des écoulements divins de lui-même en le mariage, de la transformation, il l'enrichit de tous ses dons en un seul don, elle les savoure. Liquéfié dans un souverain degré d'excellence et l'abondance de ses grâces et de ses tendresses d'esprit se répand sur le corps et se glisse jusque dans la moelle des os. Des os que se produit le sang. En me faisant mourir de cette manière et vivre d'une vie éternelle de cette terre, vous avez changé la mort en véritable. Plus rien ce qui est de la création qu'il soit entièrement mort, tout ce qui est de la substance de Dieu est vivant. Au feu qui brûlait infiniment plus que tous les feux de la terre et qui m'est d'autant plus agréable que vous me brûlez davantage. Aux plaies délicieuses qui me donnaient plus de plaisir, de délices que toute la sainteté du monde. Aux mains délicates qui touchaient avec d'autant plus d'agrément que vous me pressiez avec plus de force. Aux divins attouchements qui versaient en mon cœur mille fois plus de douceur que le miel. Puisque vous m'imprimez le goût et vous qui s'imprime jusque dans mon corps et dans ma moelle, les os, le goût de la vie éternelle, oh que vous m'êtes précieux. Puisque vous me payez toutes les dettes, tout ce que je dois, toutes les créatures ensemble ne peuvent payer en un seul instant de cette vie admirable, car vous changez d'une manière admirable la mort en vie véritable. Je suis transporté d'amour, de joie, d'étonnement. Ma gloire sera toujours éclatante et nouvelle. Elle multiplie ses jours comme le palmier, comme l'exprime Job, lui-même. Et ainsi, je sais que Dieu ne permettra pas, dès lors, que ma gloire se ternisse ici-bas en avant, qu'il sera toujours fidèle, qu'il multipliera mes jours. Oh, combien de fois il les multipliera, comme le palmier multiplie ses rejetons et ses branches. Vous avez changé mes gémissements en chants de réjouissance, rompu les vêtements que je portais dans la mort et dans le deuil. Vous m'avez revêtu d'un habit de fête et de joie et environné d'une gloire si éclatante. Je ne cesse de chanter vos louanges pendant toute l'éternité. Psaume 29. Ô caresse spirituelle que tu fais dans des délices innombrables et qui fait que il ne s'occupe que de l'âme seule, tout entier et seul à lui, tout entier à lui seul, et lui seul tout entier à elle. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Oui, c'est un flambeau de feu, dont les splendeurs éclairent les profondes cavernes, dans ses excellences extraordinaires, donnant chaleur et lumière. C'est le troisième cantique. Et les cavernes dans lesquelles, en nous, il réalise de telles flambées admirables du feu divin, elles se sont les cavernes spirituelles de la lumière, de l'amour et de la liquéfaction libre de l'âme. Les splendeurs de ces flammes sont les divines communications par lesquelles il se communique entièrement lui-même, en lui-même, à l'âme ouverte qui en est embrasée lorsqu'elle est unie à Dieu selon sa mémoire. Alors elle le goûte et elle l'aime de toutes ses puissances pleines de lumière et d'amour. Alors elle voit que s'agit d'une splendeur, pas seulement un délice, pas seulement de feu, mais de splendeur au milieu des flammes de ses flambeaux, non pas à côté d'elle, devant-elle, parce qu'elle est même toute changée en flamme. Elle ressemble à l'atmosphère, à l'air. Elle ressemble à l'air qui est renfermé, comme si l'air, l'atmosphère tout entière, s'était enfermée à l'intérieur de la flamme. L'air est embrasé, introduit dans la flamme, allumé par la flamme. Ou plutôt, l'âme n'est plus qu'un air enflammé. Très très joli. Et alors les mouvements de la flamme ne sont plus les mouvements de la flamme seule, mais de la flamme et de l'air à la fois, dans la flamme, embrasé par la flamme. Et pourtant c'est le feu seul qui brûle l'air, qui l'embrase et l'embrase. Et de même, l'âme est avec ses puissances dans le milieu où au centre de ses splendeurs, en sa substance, qu'il éclaire et l'enflamme. Les mouvements de cette divine flamme ne viennent pas de l'âme seule, ni de Dieu qui l'enflamme, ni du Saint-Esprit seul qui transforme l'âme dans son feu sacré, qui lui est intérieur, mais ils naissent de lui et d'elle en même temps et conjointement dans un mariage spirituel. Ainsi, ces mouvements communs à Dieu et à l'âme sont des rejaillissements de la gloire de Dieu, et dont Dieu couronne l'âme dans cet état secret. Comme il agit comme notre feu matériel, qui s'efforce par les agitations de la flamme d'élever l'air jusqu'à sa sphère, comme l'air qui est toujours dans sa propre sphère rend inutiles les efforts du feu, de même les attaques de Dieu, véhémentes, dans la prise qu'il en fait, non pas l'effet qu'il prétend, parce que l'âme demeure dans le cours de la vie mortelle de la terre, jusqu'à ce que le temps de son entrée dans le sein de la divinité, la lumière de gloire soit venue. C'est une admirable description de ce qui se passe dans la croix glorieuse de Joseph. Quand il va recevoir la lumière de gloire, les marques que Dieu donne là à l'âme et de la gloire qu'il lui prépare dans le ciel, et cette lumière sont alors plus fréquentes et plus parfaites, plus absolues, plus infinies. Mais dans la vie future, les effets, les fruits de cette gloire seront infiniment plus excellents. Ils ne se feront plus aucune altération, ni interruption, ni agitation, ni changement. Et l'âme voit clairement alors, là, dans ce mariage, qui semblait être un mouvement impétueux, que, en elle, elle n'en a point en lui-même, comme le feu ne s'agite pas dans sa sphère. Pour ce qui est des clartés brillantes et brûlantes, consumées et consommantes, ces grâces, ce sont des grâces inestimables que Dieu fait à l'âme transformée. On peut les appeler des abombrations. Et à mon avis, ce sont là les faveurs les plus grandes et les plus sublimes qu'on puisse avoir dans cette union transformante. L'abombration. En Moloch est l'abombration de Moloch. S'il te prend sous son ombre, c'est la nuit de Moloch qui se répand et t'est transformée en nuit obscure de Moloch. La mort de l'innocence, consommée par Satan pour l'éternité. Si c'est l'ombre, si t'es obombré par quelqu'un qui t'aime, comme Marie obombre l'homme, comme dit le prophète Jérémie, si c'est l'ombre, la femme obombre l'homme, alors l'homme et la femme sont une seule immaculée conception fécondante, fécondant la vie divine de Dieu lui-même. Et à ce moment-là, si tu es obombré par la nature humaine amante, tu deviens toi-même une nature humaine aimante. Tu es cette nature aimante par ressemblance, par présence, et par transformation réelle. Et si tu es obombré par la lumière, tu deviens la ressemblance de cette lumière, et tu es cette lumière à l'intérieur de la lumière. Et quand c'est l'ombre de la sagesse, la suavité pacifique, sans limite, sans fin, qui t'obombre, c'est cette saveur, cette paix de la Jérusalem elle-même, qui est toi-même, dans cette obombration. De là, on peut deviner quelle sera l'ombre dont l'ombrement du Saint-Esprit couvre l'âme avec ses grandeurs, sa substance infinie. Cela est impossible de le concevoir, puisque l'Esprit de Dieu, en l'ombrement, demeure tout proche d'elle, et qu'à la faveur de cette ombrement, il est entièrement uni, hein, de son centre jusqu'à l'ombrement elle-même. Et elle connaît ainsi, et elle goûte les perfections de Dieu dans cette embrasion, elle en devient elle-même. La ressemblance est transformée. Et elle connaît, elle goûte les propriétés de la puissance, de la sagesse, de la bonté, de la gloire, et de toutes les autres perfections divines, et de l'unité de tous ces dons intimes à la substance de Dieu dans l'ombre de cette puissance, de cette sagesse, de cette bonté. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'âme est embombrée dans ses grandeurs divines, qu'elle est pénétrée des flammes de son amour, couverte de sa protection, embombrée, elle jouit des beautés de sa gloire, elle a la vue dans cette image, elle est devenue en cette embombrée sur la ressemblance de la gloire du Seigneur, comme le dit Ézéchiel. Alors que cette âme heureuse est transformée, que sa grandeur est extraordinaire. Elle est même stupéfaite des choses qu'elle voit, sans sortir des limites du voile de la foi. Qui pourrait les exprimer? Qui pourra jamais dire tous ces écoulements de Dieu qui remplissent l'âme entière en se déchargeant sur le corps entier. Ah, oh, sagesse divine, abîme de délices d'autant plus grande qu'elles sont tout enfermées dans l'unique et simple essence même de la nature de Dieu. En lui, on connaît, on goûte une chose sans perdre la connaissance ni le goût d'une autre, parce que tout est un, tout est lumière. Tout est un, tout est pureté, tout est un. Et nous voici, et te voici. Oui, vous êtes enfin le dépositaire, le dépôt des trésors du Père éternel. Les saints Jean de la Croix disent que dans les cavernes de l'âme, il y a la mémoire, il y a la lumière, il y a l'amour. Et que dans la mémoire, cette suavité dans l'ombration se caractérise par le fait qu'elle est épuisée. Une liquéfaction totale. Le corps est aspiré dans cette liquéfaction, dans l'âme, de la mémoire. Et elle qui est l'image, selon la croix, il lit la description qu'il fait de la mémoire dans ses opérations de transformation. Elle se détache de la liquéfaction ici, liquéfiante que l'image qu'elle est. Parce que Dieu nous crée image et ressemblance de Dieu. S'effondre et s'engloutit, aspiré en dessous d'elle, dans la ressemblance, c'est-à-dire Dieu lui-même qui la porte. Voilà les opérations de la mémoire dans l'union transformante pour Saint Jean de la Croix. Il faudrait en dire davantage, je sais bien. Ce carême-là, on est dans les... Il en reste 17 jours, pour aller jusqu'au fond. Pour nous diluer, c'est prendre. Et pour que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ soit produit par le corps mystique de l'Église tout entière. Toutes les dettes du monde et les séductions de Moloch puissent disparaître et tomber dans le vide et que tous les êtres puissent rentrer dans les prémices de ce germe d'éternité, d'amour et de liberté dans le paquet des conceptions. Voilà notre programme du carême de cette année, mis en place, institué par le Saint-Père. avec Marie pour opérer librement.